Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir, La Rose des Vents se tourne vers la Méditerranée, une mer secouée ce printemps par trois naufrages majeurs et de nombreux autres mineurs, et la disparition de milliers de migrants en provenance de Libye. Ces drames en mer Méditerranée relancent le débat sur les craintes de l'immigration massive en Occident et questionnent sur les fondamentaux des politiques migratoires en Suisse et en Europe. Faut-il se décentrer de la question humanitaire ? À mes côtés, Daniel, et nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Claude Calame. Bonsoir, vous êtes anthropologue et helléniste, vous avez enseigné à l'Université de Lausanne, à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Vous êtes très engagé et vous faites partie depuis de nombreuses années de divers mouvements de défense des droits humains en France, tout comme en Suisse. Préoccupé par le sort des migrants de manière générale et des réfugiés, vous faites partie en Suisse de SOS Asile, une association qui défend le droit d'asile et qui soutient les personnes exilées aux prises avec les lois de plus en plus dures et restrictives. Claude Calame, alors dans quelle mesure un collectif comme SOS Asile s'est senti concerné par ces drames en série et quelle est la position de la Suisse ?
Alors, en ce qui concerne SOS Asile en particulier, le collectif a réagi dans la mesure où la Suisse est largement complice de la politique qui est conduite en Méditerranée par l'Union européenne. Et ceci d'abord par le biais des accords de Schengen, et à l'intérieur de ces accords de Schengen, elle a signé l'accord de Dublin, cet accord de Dublin qui autorise le pays dans lequel de l'Union européenne dans lequel parviennent des requérants d'asile ou des migrants de manière générale, de les renvoyer dans le pays où ils ont été enregistrés pour la première fois, c'est-à-dire en ce qui nous concerne l'Espagne, mais surtout la Grèce et naturellement l'Italie.
Mais finalement, en quoi ces événements d'avril montrent les contradictions de l'Union européenne et surtout le double langage auquel est contraint Frontex, l'Agence européenne pour la sécurité et les frontières extérieures de l'Union européenne?
Alors, du point de vue de Frontex elle-même, il n'y a pas de double langage. Hein. Je viens de lire encore, ce n'est pas la première d'ailleurs, une déclaration du directeur adjoint de Frontex qui montre bien que Frontex n'est pas une organisation pour l'accueil des migrants, mais de contrôle des frontières. Donc le double discours, ça n'est pas du tout celui de Frontex, mais c'est celui, dans le cas particulier, du Conseil européen et de manière plus générale, de la Commission européenne.
Et que pourriez-vous dire concernant ces contradictions ? Parce qu'on a le sentiment que d'une part, on veut repousser les migrants loin de la forteresse européenne, et d'un autre côté, pour des raisons humanitaires, on veut agir.
Alors, ce qui est tout à fait caractéristique, ce sont les décisions prises le 23 avril dernier, face au troisième naufrage important qui a fait plus de 700 morts. La plupart des migrants étaient enfermés à fond de cales, donc on n'a pas pu encore procéder à l'identification des corps. Et pour l'instant, on parle simplement de disparus, ce qui est d'ailleurs aussi significatif parce que dans toute cette politique migratoire, il y a une espèce de négation, une négation complète de l'identité personnelle d'une part, mais aussi l'identité humaine des personnes qui essaient d'atteindre d'une manière ou d'une autre l'Europe. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à cette session extraordinaire du Conseil européen, donc qui a pris quatre décisions. D'une part, celle de tripler les moyens mis à disposition les moyens mis à disposition de l'opération Triton, qui sont une opération qui est conduite essentiellement par l'agence Frontex. La deuxième décision, c'était celle de s'attaquer aux filières des passeurs. La troisième, je cite ici, c'était de prévenir les flux migratoires en tentant de contrôler ce qu'ils appellent les routes migratoires en collaboration avec ce que j'appellerais moi les pays de transit. En l'occurrence, il s'agit de l'Égypte, de la Tunisie. La Libye, c'est impossible, mais il y avait eu dans ce sens un accord autrefois entre Kadhafi et Berlusconi. Mais à ces pays du Maghreb ou du nord de l'Afrique s'ajoutent aussi et le Soudan et le Niger. Si bien ce qui signifie donc que sont visés non seulement les migrants qui viennent du Moyen-Orient, mais aussi les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Il faut encore ajouter, l'idée était d'installer dans les pays que j'ai mentionnés ce qu'on appelle dans le document officiel des camps de réception. Et puis la quatrième décision, c'était celle d'accueillir tout de même quelques milliers, sans qu'on précise le chiffre, quelques milliers de réfugiés supplémentaires.
Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs, en fait, qui ne cessent de dire qu'on ne peut pas accuser toute la misère du monde ?
Alors, d'abord, la Suisse et les pays d'Europe ont signé la Convention européenne des réfugiés de 1951, et au terme de cette convention, on est tenu d'accueillir les réfugiés, les demandeurs d'asile qui s'adressent à vous et d'examiner leur demande. Hein. D'une part, quant aux migrants et aux migrants qui trouvent souvent la mort en Méditerranée, il y a là tout simplement un devoir humanitaire. Les pays d'Europe ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, et au nom de cette déclaration-là, il y a un devoir d'accueil.
Et finalement, en termes de politique migratoire, pensez-vous que la Suisse et l'Union européenne mènent le même combat pour une immigration choisie ?
C'est exactement le même combat, oui. J'en suis alors absolument convaincu.
Mais est-ce que l'Union européenne s'est inspirée de la politique migratoire suisse ?
Alors, elle s'en est inspirée, pas forcément dans les grandes lignes de la politique migratoire. Il y a simplement ici une espèce de convergence d'intérêts, une convergence politique, mais dans les mesures concrètes prises à l'égard des migrants, et en particulier à l'égard des réfugiés, la Suisse a servi de modèle. Elle a servi de modèle, par exemple, à l'occasion de l'introduction des mesures de contrainte en 1995, où ont été mis sur pied les premiers camps de rétention administrative en préparation du renvoi. Ensuite, on a encore prolongé le délai, le temps de la détention. Et désormais, en particulier en France, on suit la même, on a là aussi suivi cette procédure de construction de camps de rétention, les CRA. La Suisse a aussi servi de modèle dans les renvois, ce qu'on appelle ici les vols spéciaux, qui sont pratiqués à très large échelle en Suisse et dans une moindre mesure, mais la politique elle est en train de changer en France voisine.
Est-ce que vous pensez que l'Europe, de manière générale, et la Suisse ont les moyens de pouvoir offrir un accueil à ces migrants, à ces réfugiés ?
Alors, je suis convaincu que les différents pays d'Europe, et en particulier la Suisse, en a d'une part les moyens financiers, mais aussi les moyens politiques. Et dans le cas particulier, il ne s'agit pas forcément d'intégration ni d'assimilation, mais tout simplement de compréhension à l'égard des réfugiés de manière générale.
Merci Claude Calame pour cette réflexion sur les enjeux de la politique migratoire en Suisse et en Europe. La problématique des réfugiés est au cœur de l'actualité, encore et toujours. Un sujet réalisé par Daniel.